RCF.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, avec Agora Défense et dans le cadre du Berry se raconte. Nous poursuivons l'histoire du drapeau du 95e régiment d'infanterie avec Jean-Pierre André, secrétaire de l'association des anciens du 95e Herry et 85e Herry, et aussi membre de la Société archéologique et d'histoire du Berry. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Verdun.
Alors, nous nous sommes quittés le mois dernier avec la fin de la guerre, un bilan terrible, mais aussi, après cette guerre, un certain nombre de récompenses vont être attribuées aux régiments qui sont particulièrement illustrés. Et le 95e régiment d'infanterie, stationné à Bourges, va donc recevoir la fourragère à la couleur de la médaille, de la croix de guerre. Qu'est-ce qu'une fourragère et pourquoi est-ce que le 95e Herry a droit à cette fourragère ?
La fourragère est un cordon d'une couleur correspondant à la médaille qui a été octroyée au régiment, qui est installé, si je peux dire, à la pointe du drapeau, à côté de ce qu'on appelle la cravate, qui porte, elle, la médaille correspondante. Pour ce qui concerne le 95e Herry, il faut savoir que la fourragère est attribuée, ou la médaille plus exactement, est attribuée en fonction des citations qui ont été données au régiment. Le 95e Herry, pendant la guerre de 1914-1918, a reçu deux citations à l'ordre de l'armée, une citation à l'ordre du corps d'armée et une citation à l'ordre de la division. Ceci lui donnait droit à l'attribution de la croix de guerre, l'attribution au régiment de la croix de guerre, au port de la fourragère, et sur la croix de guerre attribuée au régiment, une palme qui correspond à la citation à l'ordre du corps d'armée, une étoile de vermeil qui correspond à une citation à l'ordre du corps d'armée, et une étoile d'argent qui correspond à une citation à l'ordre de la division. Bien sûr, il ne pouvait pas avoir une étoile de bronze à l'ordre du régiment, puisque c'était le régiment lui-même.
Tout à fait. Alors, justement, l'histoire du 95e régiment d'infanterie n'est pas systématiquement inscrite sur son étendard, comme vous venez de le dire. Et pourtant, des actions héroïques se sont déroulées pendant une courte période où la France a vacillé dans la tourmente de la défaite de 1940. Alors justement, avant d'arriver à ce terrible épisode de notre histoire, que devient le régiment, le 95, entre les deux guerres ? Il est toujours sur Bourges.
Ah oui. 95e Herry est toujours en garnison à Bourges, avec un bataillon à Cône-sur-Loire, 3e bataillon à Cône-sur-Loire, où il a pris place dans la caserne Binot, qui était la caserne occupée par le 85e régiment d'infanterie, avant qu'il ne soit dissous en 1920, et un fort détachement à Avord. Et il est devenu, entre les deux guerres, un régiment d'infanterie motorisé. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il a été doté de manière extraordinaire en véhicules, camions, etc. Ça veut dire tout simplement qu'on lui a retiré ses moyens hippomobiles et qu'il était pris en charge pour ses déplacements par l'arme du train.
Très bien. Alors, la guerre est déclarée en septembre 1939. Nous avons cette période de drôle de guerre qui se poursuit jusqu'au 10 mai 1940. Et le régiment, le 95e Herry, est au nord-est de la France. Comment le 95e Herry vit cette drôle de guerre ? Comme toutes les unités de l'armée française, je pense.
Bien sûr. D'abord, en septembre 1939, il mène quelques actions dans la Sarre allemande. Pénètre en Allemagne sur une dizaine de 10-12 kilomètres, mais très rapidement, sur ordre, il se retire derrière nos frontières. Et en novembre, je crois, il est affecté à la 7e armée, l'armée du général Giraud, qui, d'après le plan d'Ilbreda de l'armée française, était destiné en cas d'attaque allemande à courir, si je peux dire, le long de la mer du Nord, pour aller tendre la main aux Hollandais. Donc il était jusqu'en mai 40 dans la région de Boulogne.
Alors justement, le mois de mai 1940, c'est la guerre éclair, et le 95e régiment d'infanterie a un comportement particulièrement héroïque.
Oui, n'oublions pas que le 95e RI était considéré comme un des très bons régiments de l'armée française.
Oui.
Il a servi notamment à faire des expérimentations de tactiques, d'armes nouvelles, de parachutisme, par exemple, dans les années 38-39.
Oui.
Ça veut dire que c'était quand même un régiment oui. estimé et reconnu. Le 10 mai 40, il est donc dans la région de Boulogne, et dès le 11 et 12 mai, il est pris en charge par les unités du train des équipages, dont les hommes sont embarqués dans des autobus parisiens, simplement,
oui.
et emmenés jusqu'à, en deux jours, jusqu'à la hauteur du canal Albert,
oui.
en Belgique. Et ils commencent à se mettre en position de défense pour bloquer l'avance des Allemands. L'état-major se rend compte alors que la percée qui avait eu lieu à Verdun le 13 mai 40 était plus qu'un accident.
Sedan était plus
qu'un incident, et se rend compte qu'il faut bien vite envoyer des troupes. Donc la 9e division d'infanterie motorisée à laquelle appartenait le 95e RI est priée, tout à fait cessant, de contourner l'arrière de la première armée française qui, elle, était rentrée en Belgique, de passer derrière pour venir bloquer cette poussée des blindés allemands qui avaient percé
à
Sedan. Ils reçoivent l'ordre de se tenir prêt le 15, on allait leur envoyer des véhicules. Ils ont attendu une journée et demie. Et est arrivé des autocars conduits par des chauffeurs extrêmement fatigués, car ils revenaient déjà de Hollande. Ils avaient subi un ou deux bombardements en route, et il y avait donc déjà un certain nombre de véhicules d'éliminés. Ils ont chargé le régiment, sauf le matériel lourd qui ont été chargés dans des trains, on les a jamais les beaucoup de canons anti-chars de 25, les chenillettes d'accompagnement, un certain nombre de matériel est parti par train, on les a jamais revus. Et le convoi s'ébranle en direction, ben les hommes ne savaient pas trop, les officiers non plus. Et ils partent, les officiers, pour se guider, certains ont été obligés de s'arrêter dans des villages, rentrer dans les maisons, chercher les calendriers des postes pour avoir une carte, pour pouvoir un peu se repérer. Et ils arrivent dans la région de Cambrésis,
oui.
autour du 16-17 mai 1940. Quand ils arrivent, le convoi qui emmenait le régiment, la division d'ailleurs, avait été atomisé, si je peux dire, d'une part par des bombardements, et puis surtout par le flot énorme de réfugiés qui occupaient les routes, toutes les voies de circulation, de femmes, d'enfants, de troupes en déroute, françaises, allemandes, françaises, belges, en déroute, qui bloquaient, qui empêchaient les... qui gênaient les camions de passer, qui bloquaient les villages. Alors, ça a été une épopée terrible pour arriver jusque dans le Cambrésis. Il leur a fallu, en gros, une journée et demie pour faire moins de 100 km. Moi, j'avais calculé, c'était une moyenne de 7 km heure sur le trajet. Et ils arrivent dans le Cambrésis. Ils n'avaient, depuis septembre 40, pas vu un seul Allemand. Ils arrivent dans le bourg Cateau-Cambrésis et les véhicules, le premier véhicule de la colonne, passe un pont sur la Sambre. Puis, en face de lui, à 100 mètres, il voit des blindés allemands. Alors, ils venaient de faire environ 100 km en arrière de la position où ils étaient. Faisant 100 km en arrière, ils se retrouvent face à face avec des blindés allemands. Bon, ça a été... Alors, le convoi a fait demi-tour dans des conditions absolument dantesques. Et puis, les troupes ont été débarquées au fur et à mesure que les véhicules arrivaient un peu partout dans la région. Et enfin, le colonel Grélot, commandant le régiment, arrive quand même à peu près répartir ce qui lui restait de troupes et de matériel. Et notamment, il installe son PC à Catillon-sur-Sambre, petite ville au bord du canal de la Sambre. Et il s'installe ce qu'on appelle en point fermé, c'est-à-dire en hérisson. Ce qui restait du 2e bataillon va s'installer Cateau-Cambrésis, dans les mêmes conditions. Ce qui restait du 3e bataillon va s'installer dans un autre village dont le nom m'échappe. Des petits postes un peu partout. Dans toute la région, il y a une section ici, une section là. Enfin,
et on attend l'attaque.
Et l'ordre était de bloquer le passage, de tenir et bloquer le passage. À Catillon, le 1er bataillon est renfermé avec des unités des tirailleurs tunisiens, des dragons portés. Il y a même une petite unité belge qui est là, qui avait été ramassée au passage. Enfin bon, tout ça sous l'autorité du colonel Grélot et du commandant Moine, deux officiers de grande valeur. Ils ont subi pendant 2-3 jours les assauts de la 7e division blindée du général Rommel, qui était épaulé, si je peux dire, pour la partie infanterie, par le 1er régiment des grenadiers SS Totenkopf.
Régiment d'élite.
régiments d'élite, je ne sais pas si on peut pas dire d'élite, c'était des régiments avec des hommes fanatiques.
Oui.
Et ce sont les charmants jeunes gens qui, l'année d'après, je crois en 41-42, vont être chargés de garder les camps de concentration.
Oui.
C'est pour donner une idée des poètes que c'était.
Oui.
Et le régiment va tenir 2 jours. Alors pareil, subissant des assauts de fantassins, des assauts de blindés, des bombardements aériens, etc. Dans ce petit village de Catillon-sur-Sambre. Et le dernier jour, le dernier soir, ça doit être le 20 mai 1940, le colonel Grelot, avec les quelques officiers de son PC, une poignée d'hommes, est renfermé dans son PC qui est installé dans la boucherie de Catillon. Les Allemands se sont infiltrés dans le village, les fantassins allemands se sont infiltrés dans le village avec quelques blindés. Enfin, les Français sont à court de munitions, n'ont aucun espoir de renfort de quelque sorte que ce soit. Le colonel Grelot a fait installer une botte de paille dans la cour de la ferme, l'a fait imbiber d'essence et au signal, le lieutenant Pelé, porte-drapeau du régiment, a déployé la soie du drapeau sur la botte de paille et avec son briquet a mis le feu à la botte de paille. C'est ainsi que le drapeau qui avait été attribué en 1880 au 95e RI, après la guerre de 70, qui avait subi les attaques de Matexé, où il avait pris une balle, a disparu. Donc on a simplement retrouvé, après la guerre, la rampe, la pointe, qui a été ramassée par deux personnes qui se sont prétendues officiers du 95e RI. On n'a jamais su qui c'était. Et en 45, cette pointe a été déposée d'une manière mystérieuse au musée des armées aux Invalides.
Une quand même très belle histoire. Parce que ce fameux drapeau du 95e régiment d'infanterie, eh bien, va renaître en 1945. Il va percevoir un nouveau drapeau en avril 1945. Là débute une nouvelle histoire qui se termine en 1998. Et où, comme on le sait, ce drapeau va rejoindre l'hôtel des Invalides pour revenir à Bourges, à Vincennes, pour revenir en septembre 2014 à Bourges pour l'inauguration d'une plaque à la caserne Condé. Je cite cette plaque que vous pouvez aller voir. Hein. En août 1914, le 95e régiment d'infanterie en garnison à Bourges, quartier Condé, parti vers le front pour défendre la France. Le 6 septembre 2014, la France reconnaissante. Ce drapeau, il est revenu sur Bourges. Initié par le général Baldi, commandant les écoles militaires de Bourges, il nous revient le 30 août 1914 à l'hôtel de ville de Bourges et il est officiellement présenté aux écoles militaires de Bourges qui en ont la garde, place Étienne-Dolay, le 17 septembre 2019. Belle histoire et reconnaissance à ce symbole fort d'une ville profondément associée à l'histoire militaire de notre pays. Merci Jean-Pierre, bonne poursuite de vos recherches sur l'histoire riche de notre histoire militaire du Berry. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices, de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'histoire militaire du Cher et du Berry avec Agora Défense. Bonne semaine à vous.